commence par une citation qui nous mène assez loin de Facebook. L'habituel cérémonial, porte fermée à clé, volet fermé, rideau tiré, boule de cire pour supprimer les bruits du dehors, tous les bruits de non-amour. La lampe de chevet allumée, elle s'étendait sur le lit, arrangeait l'oreiller. Non, ne pas lire encore, faire durer le plaisir. Voir un peu l'enveloppe d'abord. Belle enveloppe solide, sans l'affreux doublage intérieur. Très bien. Et il avait collé le timbre soigneusement, pas sans dessus-dessous, tout droit, juste au bon endroit, avec amour, voilà. Oui, parfaitement, c'était une preuve d'amour. Elle regardait la lettre de loin sans la lire. Ainsi, lorsqu'elle était une petite fille, elle considérait le biscuit petit beurre avant de le manger. Non, ne pas lire, attendre encore. Elle est à ma disposition, mais il faut que je meure d'envie de la lire. Regardons un peu l'adresse. Il a pensé à moi en écrivant mon nom, et parce qu'il a dû mettre « Madame », qui fait honorable, décent, il a peut-être pensé par contraste à moi nue, si belle, qu'il a vue de tous les côtés. Maintenant, regardons un peu le papier, mais du côté pas écrit. Papier très beau, Japon peut-être. Non, le papier ne sent rien. Il sent la netteté, la propreté absolue. Un papier viril, voilà. Ainsi est décrite une lettre qu'Ariane reçoit de son amant Solal dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Cette citation, reprise dans l'anthologie Paroles, échanges, conversations et révolutions numériques, comme illustration justement des communications avant les dispositifs numériques, est intéressante non pas tant pour sa provenance, à mon sens, même si Belle du Seigneur arrive étonnamment au 75e rang du palmarès des 100 livres préférés des Québécois, paru dans la presse Plus de samedi dernier, mais pour l'importance que ce roman accorde à la lettre en tant qu'objet, à la matérialité de celle-ci, au détriment de son contenu. Chez certains écrivains épistoliers, par ailleurs, le contenu même de la lettre intègre des commentaires sur la calligraphie du correspondant, sur la qualité du papier employé par celui-ci, sur les défauts stylistiques de la lettre de l'autre. Tous ces éléments deviennent des lieux communs de l'échange entre les destinataires et en viennent à faire partie du pacte qui régit le dit échange. À titre d'exemple, je citerai le corpus des lettres de Gabriel Roy, que je connais très vaguement. Dans les lettres échangées avec son mari, Roy réprimande constamment celui-ci au sujet de la brièveté de ses missives, du nombre élevé de fautes d'orthographe qu'il commet, lui suggérant d'ailleurs fortement de se procurer une nouvelle édition du Petit Larousse. Et également, elle le réprimande sur le fait que ses phrases ne commencent pas par une majuscule et ne se terminent que très rarement par un point. Dans une réflexion sur les textes publiés sur support numérique, la matérialité de la lettre ou de ce qu'on considère comme un texte épistolaire devient secondaire. On ne commentera évidemment pas la qualité de la calligraphie ou du papier employé, et la brièveté des textes fait en sorte qu'on évite généralement les remarques liées au style ou les commentaires systématiques sur chacun des événements évoqués par son interlocuteur. La grande majorité des échanges et des conversations, on le sait, sont aujourd'hui médiatisés par des dispositifs technologiques. Ces échanges se déroulent dans l'environnement virtuel et sont dès lors dématérialisés. Une réflexion sur les liens entre la lettre et les réseaux sociaux, telle celle que j'amorce ici, doit plutôt reposer dès lors sur l'examen d'autres éléments d'ordre formel et sociologique. Si la notion de communauté apparaît par ailleurs dès qu'on évoque les échanges et les conversations dans l'environnement numérique, celle-ci était déjà centrale au modèle épistolaire. En effet, la lettre s'est toujours située à la frontière de la sphère individuelle et collective. Qui plus est, certains types de lettres, comme la lettre circulaire, qui donne des informations utiles au maintien de la cohésion d'un groupe ou d'une communauté, qui a entre autres marqué les pratiques épistolaires au 17e siècle, ont été conçus pour être destinés à une communauté. Ce type de pratique n'est pas sans trouver écho dans les formes actuelles de communication fondées sur les envois massifs et sur les messages collectifs. Ce n'est que par sa forme manuscrite que la lettre circulaire conserve une apparence d'intimité. À partir de ces quelques définitions de la lettre et des différentes modalités de destination qui la sous-tendent, la question générale que je formulerai comme point de départ à cet exercice exploratoire, dans lequel j'évoquerai justement quelques-uns des éléments formels et sociologiques communs à la lettre et aux réseaux sociaux, est la suivante. Peut-on affirmer qu'il se crée des communautés épistolaires sur les réseaux sociaux? Dans un article publié en 2010, intitulé « Épistolarité d'aujourd'hui à hier », Benoît Melançon proposait un aperçu de la transformation de la lettre et du roman épistolaire à l'ère du numérique. Il évoquait le cas de romans épistolaires parus sur Twitter, notamment Citizen de John Ray, et de blogs qui peuvent contenir des lettres et dont les commentaires se rapprocheraient, à certains égards, des lettres publiques. Le courriel, dérivé de la lettre, permettrait de surcroît, dans certaines circonstances, cela est notamment rendu possible par les fonctions « envoi à tous » ou « répondre à tous », la constitution de communautés virtuelles. Je cite Melançon, « La création de communautés est une des principales caractéristiques des communications numériques. Ce qu'il est désormais convenu d'appeler le Web 2.0 ou le Web social repose sur ce principe qui s'incarne dans des services comme Facebook, Twitter, Flickr, YouTube et Wikipédia. » Qu'en est-il des textes qui circulent de manière générale sur les réseaux sociaux, qui ne relèvent pas d'emblée de l'épistolarité, fictive ou non? Peut-on également les considérer comme des modulations de la forme conventionnelle de la lettre, qui est, par définition, génératrice de communautés? Autrement dit, serait-il possible de les envisager, eux aussi, au-delà du lieu commun selon lequel Facebook s'apparenterait à un journal intime qu'on rend public, comme des textes épistolaires, et d'en expliquer certains des éléments de forme et de contenu en revenant au modèle épistolaire abondamment commenté par la critique littéraire? Et au-delà du premier niveau d'intervention, le statut dans Facebook ou le tweet dans Twitter, par exemple, qui seraient des modulations possibles de la lettre, pourrait-on considérer que les commentaires et les interactions suscitées par le dit texte feraient partie ou contribueraient à la constitution de nouvelles formes de communautés épistolaires? Ces diverses questions me mènent à formuler une première hypothèse, comme quoi le statut Facebook correspond, d'une certaine manière, à une lettre familière qu'on transmet en sachant qu'elle sera lue et commentée par plusieurs, qui passe donc, en étant affiché sur le web, du domaine privé au domaine public. Il serait donc, à cet égard, si on reprend la catégorisation proposée par Geneviève Haroche-Bouzinac dans un bouquin intitulé simplement « L'épistolaire », une sorte d'amalgame de la lettre familière et de la lettre ostensible. J'y reviens dans un moment. Dès lors, une fois établi le lien entre certains éléments formels, donc reprise de certains éléments constitutifs de la lettre, destination, transitivité, échange, circularité, etc., et d'éléments sociologiques, donc l'identité, l'interactivité, la création de réseaux, par exemple, donc des éléments formels de la lettre et du texte publié sur les réseaux sociaux, il est possible de supposer, et ce sera ma deuxième hypothèse, que les 10 réseaux soutiendraient la formation de communautés épistolaires. Autrement dit, les modèles épistolaires traditionnels pourraient permettre d'expliquer l'émergence et le fonctionnement de nouvelles formes textuelles sur les réseaux sociaux et la formation de communautés à l'ère du numérique. Voyons plus en détail ce qui peut nourrir la démonstration de ces deux hypothèses générales. La lettre familière, que Cicéron présente comme « familiare et jocosum », « familière et plaisante » donc, est par définition une lettre envoyée à un membre du cercle des familiers, parents et amis. Elle sous-entend la présence d'un « je » et d'un « tu ». La familiarité est définie par rapport à la personne à qui la lettre est adressée et non pas exclusivement par le ton employé. Le contenu est tout de même caractérisé par une certaine liberté dans les sujets abordés à cause, justement, de la proximité des liens entre destinataire et destinataire, liens qui suggèrent une habitude de fréquentation. De même, la lettre familière, qui suppose toujours, dès son envoi, l'existence d'une éventuelle réponse, s'inscrit dans une certaine continuité, notamment du lien affectif entre les correspondants, mais ne suppose pas nécessairement l'existence d'un pacte de confidentialité, la lettre étant orientée vers le destinataire et devenant, dès son envoi, la propriété de celui-ci, si bien qu'il peut en disposer et la faire circuler comme bon lui semble. Enfin, il s'agit d'un texte unique, car il est le plus souvent manuscrit, contrairement à la lettre publique, dont le support de diffusion est souvent, dans plusieurs des cas, l'imprimé. La lettre ostensible est pour sa part une lettre qui se veut implicitement orientée vers plusieurs destinataires, mais qui conserve le degré de familiarité de la lettre privée. Ce sont des lettres authentiques rédigées par un scripteur à l'intention d'un destinataire unique, explique là encore Geneviève Haroche-Bouzinac. Je poursuis la citation. Chargé de représenter ou de transmettre à un ensemble plus large ou à l'intention d'un destinataire déjà identifié comme collectif, classe, anciens élèves d'une école, groupe réuni par des intérêts convergents. Cette sorte de lettre, qui n'a rien de fictif, la lettre est rédigée, adressée, transmise, permet d'envisager l'épistolaire à cette limite parfois imperceptible qui sépare vérité, réalité, authenticité et fiction. L'épistolier qui écrit sait qu'il sera lu par plusieurs regards. Cet aspect n'est pas sans accentuer la part de pose, de mise en scène déjà présent dans tout échange de correspondance. Fin de la citation. De cette définition de la lettre ostensible émerge la notion de communauté, ici communauté de destinataire, qui nous permet, me semble-t-il, de songer à l'établissement d'un lien entre le modèle traditionnel de la lettre et celui du texte publié sur un réseau social comme Facebook. En effet, le statut Facebook inaugure un dialogue, ou plutôt l'équivalent d'une conversation, à laquelle pourront potentiellement participer tous les amis et, dans le cas de statut public, tous les membres de la vaste communauté Facebook. Ils mettent en contact un locuteur et des destinataires qui échangent depuis un contexte d'énonciation partagée, soit le mur Facebook, qui, contrairement à la lettre, n'impose pas de structure énonciative stable, mis à part ce qui est imposé par les contraintes techniques associées à la saisie du statut. Or, s'il n'y a pas de structure énonciative stable, les différents éléments formels de la lettre se trouvent tout de même la plupart du temps condensés dans le statut Facebook. La mise en situation, l'annonce du sujet et la narration, par exemple. Je vous donne un exemple d'autofiction de ma personne. Vous remarquez qu'il y a un petit cadenas, donc ça n'a jamais été diffusé. Alors, quelle perte de temps! En allant chercher des photos à l'école de ski du Mont-Saint-Bruno ce matin, j'ai voulu éviter une collision avec un immense VUS et j'ai littéralement ramassé un cône orange avec ma voiture dans le stationnement. Résultat, j'attends présentement que le CAA, donc le Club d'assistance, je ne sais même pas, d'assistance automobile là, du Québec, vienne délivrer l'auto du malheureux cône coincé sous le silencieux en espérant que rien ne soit cassé sous la voiture qui est sortie de la salle de monde du concessionnaire il y a à peine 3 semaines. C'est une autofiction. Quand même, la vraie histoire ce soir au banquet. Alors, l'exorde est implicite. Chers amis Facebook, je vais vous raconter mes dernières aventures. Et la formule de salutation inexistante, dans la mesure où la fin ouverte du récit essaie, tant bien que mal, de susciter quelques remarques de sympathie sur la situation pourtant fort banale et sans intérêt pour l'humanité exposée dans le statut. Pauvre Sophie serait évidemment de mise ici, sans oublier les bons courages, bonne chance, ou encore, ce qui est le plus attendu, c'est quelque chose du genre gros câlin avec plusieurs émoticônes. Cet exemple, trêve de plaisanterie, met en lumière un autre élément fondamental partagé par la forme épistolaire et le statut Facebook, qui est celui de la transitivité. Écrire une lettre, c'est toujours écrire à quelqu'un. De la même façon, écrire un statut Facebook, même si l'exercice revêt une dimension narcissique indéniable qui fait songer, comme je le disais auparavant, qui fait songer d'emblée à l'écriture d'un journal personnel, bien, écrire un statut Facebook, c'est toujours écrire à quelqu'un, ou plutôt à plusieurs quelqu'un. C'est attendre ensuite une réponse de ses multiples interlocuteurs virtuels, un ou plusieurs « j'aime », jusqu'à ce qu'un autre statut ne vienne, parfois à peine quelques secondes ou quelques minutes plus tard, faire oublier le sien. Les textes qui circulent sur les réseaux sociaux reprendraient également certaines fonctions essentielles de la lettre. Fonction informative, donc transmettre des informations, donner des nouvelles, je le fais ici. Fonction expressive, exprimer des sentiments, selon des registres différents, quelle perte de temps, hein? Fonction injonctive, argumenter afin de tenter de faire partager son opinion, ce qu'on voit souvent. D'ailleurs, il y a 5 minutes, j'ai vu un statut de mon collègue qui donnait son opinion sur le gouvernement. Cependant, la fonction poétique, la lettre rédigée pour procurer un plaisir esthétique à son destinataire, où la qualité de l'écriture devient parfois plus importante dans certains cas que le message lui-même, paraît le plus souvent éliminé, du moins dans son sens traditionnel, dans les réseaux sociaux, où il ne s'agit plus tant de bien écrire que de bien paraître. En fait, si on trouve toujours des traces de cette fonction poétique, ce serait précisément dans cet effort soutenu et presque quotidien d'écriture, déployé par l'utilisateur dans le but d'émouvoir, d'attirer la sympathie, ou, très souvent, de faire rire ses destinataires, dans lequel cas on pourrait peut-être alors parler de fonction clownesque. Les ressemblances entre la lettre et les textes publiés sur les réseaux sociaux étant établie, je reviens à la seconde hypothèse formulée d'entrée de jeu, qui évoquait le fait que les réseaux sociaux soutiendraient la formation de communautés épistolaires. Je citerai maintenant un bref passage qui contient la description du salon des Verdurins au début d'un amour de Swann. Pour faire partie du petit noyau, du petit groupe, du petit clan des Verdurins, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo, dont un des articles était que le jeune pianiste, protégé par Madame Verdurin cette année-là et dont elle disait « ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça », enfonçait à la fois Planté et Rubinstein et que le docteur Cottard avait plus de diagnostic que Potin. Toute nouvelle recrue à qui les Verdurins ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie se voyait immédiatement exclue. Les femmes étant à cet égard plus rebelles que les hommes à déposer toute curiosité mondaine et l'envie de se renseigner par soi-même sur l'agrément des autres salons, et les Verdurins sentant d'autre part que cet esprit d'examen et ce démon de frivolité pouvaient par contagion devenir fatal à l'orthodoxie de la petite Église, ils avaient été amenés à rejeter successivement tous les fidèles du sexe féminin. L'habit noir était défendu parce qu'on était entre copains et pour ne pas ressembler aux ennuyeux dont on se gardait comme de la peste et qu'on invitait qu'aux grandes soirées, donner le plus rarement possible et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien. Le reste du temps, on se contentait de jouer des charades, de souper en costume, mais entre soi, en ne mêlant aucun étranger au petit noyau. Alors, le salon devient ici le noyau d'une communauté, de laquelle certains sont exclus ou simplement rejetés. Les individus de sexe féminin, ceux qui portent l'habit noir, alors là, je commence à me sentir un peu concernée, ceux qui osent prétendre que les gens... qui ne fréquentent pas les colloques de Figura. Non, ceux qui osent prétendre que les soirées des gens qui ne fréquentent pas le salon des Verdurins ne peuvent être intéressantes. La lettre dans le contexte des communautés épistolaires et le statut Facebook, pour reprendre cet exemple dans le contexte des réseaux sociaux, constituent pour leur part le noyau de leur réseau respectif, la raison pour laquelle la communauté est en mesure de tenir, communauté de laquelle on peut bien entendu être expulsé. Car ceux qui condamnent le contenu des lettres, ou qui n'opinent pas dans le sens des remarques formulées par leurs amis Facebook, s'exposent évidemment à une exclusion potentielle du réseau. Reprise ou modulation du contexte des relations épistolaires, les relations de communauté sur les réseaux sociaux se négocient dans un espace mobile où elles se déploient et se redéploient, s'examinent constamment, passant par des points de convergence ou des noyaux, en l'occurrence un ami commun, et faisant ainsi en sorte que parfois deux ou plusieurs réseaux ou communautés soient mis en relation. En outre, tout comme dans le cas des communautés épistolaires, la sociabilité qu'on pourrait qualifier de présentielle est désormais très rare à l'ère du numérique, surtout dans les réseaux sociaux qui favorisent plutôt une sociabilité diffuse et, pour reprendre un terme employé par Christophe Vaillant, désincarnée. La communauté créée autour de l'échange de textes entre amis menace constamment l'utilisateur d'exclusion sociale s'il n'est pas raisonnablement branché ou actif, ou s'il ne se livre pas suffisamment, ou s'il ne livre pas suffisamment d'informations, pardon, ou ne s'exprime pas assez clairement pour éclairer ses destinataires. En fait, comme le souligne Pierre Mercly, et je cite, « le réseau grandit avec l'exposition de soi, mais en retour, les préférences affichées évoluent sous l'influence des interactions qu'elles suscitent avec les amis, si bien que les réseaux sociaux modifient, comme la lettre qui s'insérait dans les échanges sociaux, les représentations et les relations sociales, et qu'il participe, comme l'a montré Mercley, d'un processus de légitimation intersubjective, se déployant à l'infini. En somme, j'ai montré, trop sommairement j'en conviens, qu'il paraît possible à certains égards de comprendre et d'expliquer la formation de communautés créées sur un réseau social comme Facebook à partir du modèle épistolaire traditionnel. Certains enjeux identitaires de la communauté épistolaire sont en effet repris et modulés. La façon d'écrire, la personnalisation de sa page, par exemple, deviennent des enjeux importants dans la création de sa persona virtuelle et de la place qu'elle occupera au sein de la communauté. La communauté est également le lieu d'un jeu de simulation. Tout comme c'était le cas dans les communautés épistolaires, on joue sur Facebook à changer sa propre condition. On joue à faire semblant. On prête même vie à des objets, comme à des pingouins en peluche, pour laisser croire qu'on n'est pas vraiment sur Facebook. De la même manière, on aura tendance à adopter les mêmes comportements et habitudes d'écriture pour se conformer aux attentes du reste du groupe ou à la manière d'être des membres les plus actifs. Il resterait évidemment à approfondir encore cette question du point de vue spécifique des identités, mais comme la question des identités sera largement abordée par mon collègue ici dans sa communication, je lui laisserai le soin de développer davantage. Quelques nuances s'imposent néanmoins. La première est qu'on n'écrit ordinairement pas une lettre pour ne rien dire, alors que Facebook est généralement davantage du côté de la conversation, du bavardage. Certains emploient même le terme « babillage » pour définir ce qui s'y trame. Autrement dit, Facebook est associé au fait de parler, justement, pour ne pas dire grand-chose. En outre, les frontières d'espace et de temps sont fondamentales à la constitution des communautés épistolaires qui se forment dans la durée et dont l'un des paramètres importants est celui de l'attente, comme le rappelle l'exemple du personnage d'Ariane évoqué en introduction. Or, les communautés créées sur les réseaux sociaux se déploient, comme on le sait, dans l'instantané, dans l'immédiat. Le temps de l'échange y est en effet resserré et les liens ne se voient plus, comme dans les réseaux épistolaires, renforcés par l'attente. La même remarque s'appliquerait d'ailleurs au cas du courriel et des envois massifs qu'il permet, mais là n'était évidemment pas la finalité de mon intervention. Dans un contexte où la situation de lecture, pour poursuivre, reste sensiblement la même que la situation de production des statuts. Enfin, le partage des idées sur les réseaux sociaux, contrairement à ce qui se produit dans les communautés et réseaux épistolaires, relève davantage du plaisir de pouvoir faire circuler les statuts des amis ou des pages auxquelles on est abonné au fur et à mesure qu'on en prend connaissance, sans nécessairement prendre le temps de faire mûrir la réflexion, ce à quoi convient implicitement la lettre. Puisque c'est à cette réactivité et à cette possibilité d'interactivité que ne comporte pas la lettre, qu'invite l'environnement virtuel. Il s'agit, somme toute, de maintenir ce qu'Hubert Guillot nomme cette conversation permanente pour ne rien dire, ce qui illustre bien, et je terminerai sur une autre citation du philosophe italien Paolo Virno, qui souligne l'importance du caractère communautaire des réseaux sociaux, le fait qu'au-delà de ses ressemblances avec la forme traditionnelle de la lettre, Facebook est peut-être aussi un roman, le roman, écrit Virno, que nous écrivons tous. Merci.